Chers amis de Radio Courtoisie, bonsoir. Au micro de ce libre journal des traditions, l'abbé Anne Laurence, assisté de Stéphane et de Guylaine, tout aussi efficace et souriant. Je les remercie. Et puis, il y a au téléphone Frédéric qui reçoit vos messages, si vous le voulez bien. Nous aurons la joie ce soir de recevoir l'abbé Daniel Sabur, qui est le seul prêtre birritualiste de la fraternité Saint-Fidis, on peut le dire, monsieur l'abbé, puisque vous pouvez célébrer dans le rite romain et dans le rite chaldéen. Vous êtes originaire vous-même de Syrie, Turquie, c'est ça?
Plutôt de Turquie, et effectivement je suis birritualiste depuis 2016 maintenant, c'est 10 ans de sacerdoce bientôt.
Voilà, très très bien. Et je vous ai demandé de venir un petit peu nous parler justement et du carême tel qu'il se célèbre dans le rite chaldéen et bien sûr de la fête de Pâques à la fin de ce carême. Ensuite, je recevrai alors au téléphone, parce qu'il est à une session en province, l'abbé Éric Perron, qui lui nous parlera de son dernier disque, dernier CD. Il dirige les chœurs des petits chanteurs de Saint-Joseph. C'est un thème aussi quadragésimal. Il porte aussi sur le carême, puisque c'est un disque intitulé « Eia Mater via Crucis ». Donc, c'est le chemin de croix. Il nous en dira plus vers 20h. Et à 20h20, j'aurai la joie de recevoir Alexandre Barral, qui est conservateur en chef au château de Versailles, et qui, lui, nous parlera de ce remarquable ouvrage qu'il a fait paraître chez Perrin, Versailles, des origines à nos jours. Je voudrais tout de même, juste avant de donner la parole à l'abbé Daniel Sabur, dire un petit mot des derniers événements de la fraternité Saint-Pidis. Le 2 février, M. l'abbé Pagliarani avait annoncé, lors des prises de soutane à Flavigny, 22 prises de soutane, dont 15 Français, que la fraternité songeait sérieusement à procéder à des sacres épiscopaux, et il avait donné la date même du 1er juillet. Très vite après cette annonce, le Vatican a dit « mais vous pouvez venir nous voir, on peut parler ». Et donc le cardinal Fernandez, qui est le chef, le préfet du dicastère pour la doctrine de la foi, a reçu ce matin l'abbé Pagliarani. Le Vatican a fait paraître son communiqué. Je veux vous dire que la fraternité va faire paraître le sien dans les heures qui viennent, et il sera de toute façon ce communiqué en ligne sur le site de la fraternité fsspx.actualité et sur le site de la fraternité en France, du district de France, la Porte Latine, demain sans aucun doute. Et puis vous pourrez retrouver alors tous ces communiqués, tous ces textes, tous ces documents qui émanent de la Maison Générale et qui portent la question justement des sacres épiscopaux, vous les retrouverez dans le prochain numéro de DICI, donc D-I-C-I, qui est la lettre d'information de la fraternité Saint-Pidis. J'ai réuni donc dans le numéro qui lui va être disponible la semaine prochaine, en fin de semaine prochaine, dans ce numéro il y a tout, tout ce qui a pu être publié. Vous pourrez trouver, y compris bien sûr ce dernier communiqué, mais aussi les entretiens avec l'abbé Pagliarani et tout ce qui est utile pour bien comprendre ce qui se passe actuellement. Donc c'est numéro 465 de février 2026. Je peux vous donner le titre de l'éditorial, si vous voulez, des sacres à Pékin, mais pas à Écône, point d'interrogation. Vous en direz plus quand vous prendrez ce document. Voilà. Pour avoir le numéro d'ICI, si vous souhaitez, vous écrivez tout simplement à DICI, D-I-C-I, 33 rue Galande, G-A-L-A-N-D-E, Galande, 75-005. Les numéros sont disponibles dans toutes les bonnes tables de presse, en particulier à Saint-Nicolas. Pour 3,50 €, vous avez toutes ces informations. Et c'est un mensuel qu'on peut se procurer, alors si on veut s'abonner, pour 40 €, donc à la même adresse, 33 rue Galande, 75-005, Paris. Monsieur l'abbé Sabur, bonsoir.
Bonsoir, monsieur l'abbé.
Alors, vous êtes de rite chaldéen, et ce qu'il faut que les auditeurs sachent, c'est que votre liturgie utilise la langue de Jésus-Christ. Je crois que c'est vraiment le titre de gloire de la liturgie en rite chaldéen.
C'est vrai, c'est une grande fierté pour moi et pour tous les fidèles chaldéens aussi. Nous avons été nous-mêmes fondés par l'apôtre Saint Thomas, qui avait été envoyé par notre Seigneur après son ascension, Après la Pentecôte, bien entendu, Saint Thomas s'en va et va vers l'Orient. Et donc, avant d'aller en Inde, tout le monde sait que Saint Thomas était là-bas. Et c'est d'abord là-bas, d'ailleurs là-bas qu'il est mort martyr. Et bien, il est d'abord passé dans la Mésopotamie. Et c'est là-bas qu'il a converti plusieurs personnes qui étaient déjà bien, bien disposées, parce que dit-on que les rois mages étaient déjà passés par là.
Donc, la Mésopotamie, donc là, on est vraiment au cœur de l'Église primitive, on peut dire. On est là. Le pays que notre Seigneur a connu, et c'est la langue de notre Seigneur, l'araméen, qu'on parle encore, au moins pour la liturgie en tout cas.
Alors voilà, dans la liturgie, effectivement, on emploie la langue araméenne, qui est jusqu'à maintenant la langue la plus proche de celle que notre Seigneur a parlé. Il y a forcément, avec le temps, vous savez, des variations qui peuvent se faire. D'ailleurs, même dans la langue française, c'est le cas. Eh bien, dans la langue araméenne, l'araméen liturgique, on le fait dater à peu près du 4e siècle. Et donc, c'est le plus proche de celui que le Seigneur a parlé. Ça fait que maintenant, quand les fidèles assistent à la messe chaldéenne, eh bien, ils se rendent compte à peu près comment notre Seigneur parlait.
Et alors, je vous avais déjà posé la question, mais je la repose parce que l'actualité le veut. Vous savez que Mel Gibson, lorsqu'il a tourné La Passion, a voulu que les dialogues soient en araméen. Alors vous allez nous dire si c'est le bon araméen. Et on sait que là, il va tourner le prochain film, bien sûr, après La Passion, c'est La Résurrection. Et on est toujours dans le sujet donc de La Passion et de Pâques. Et là, il va encore certainement demander à ce qu'on parle, que les dialogues soient en araméen. Est-ce que vous avez vu le film? Est-ce que vous l'avez écouté dans la langue originelle? Et est-ce que c'est vraiment compréhensible pour quelqu'un qui célèbre en araméen?
Alors j'ai vu le film, à l'époque j'étais pas au séminaire, j'étais même allé le voir au cinéma, et puis malheureusement je ne comprenais pas grand chose, parce que en fait le dialecte qui avait été employé est malheureusement pas le bon. Il a employé un dialecte qui de mémoire s'appelait le dialecte syro-palestinien, quelque chose comme ça, et faisant croire que ça pouvait être la langue employée dans la Palestine au temps de notre Seigneur, mais en fait pas du tout. C'est un dérivé un peu éloigné de la langue originelle, elle-même araméenne. Si bien que j'ai vraiment essayé de faire l'effort de comprendre quelques mots, mais c'est pas très facile, non. Et malheureusement, donc, c'est que cette langue qui est employée a des racines avec l'araméen, oui, mais pas compréhensible, en tout cas, pas par les Chaldéens que nous sommes.
Ouais. Donc, ce qu'il faut, c'est que Mel Gibson, qui doit sûrement écouter Radio Courtoisie actuellement, vous prenne comme conseiller linguistique, qu'il sache quelle est la vraie et la bonne langue.
Je suis bien disponible pour lui, s'il faut.
D'accord. Bon, bah alors très bien, donc c'est parfait. Alors, comment est-ce que ça se passe? Déjà, peut-être avant même de parler de la liturgie propre au temps du carême et de Pâques, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelles sont les différences entre, puisque vous célébrez dans les deux rites,
oui,
entre le rite romain, que la plupart des auditeurs connaissent, et puis le rite chaldéen? Qu'est-ce qui diffère? Vous êtes une liturgie considérée comme orientale, oui, avec beaucoup d'encens, des offices plus longs?
Alors, effectivement, c'est une liturgie orientale. Peut-être d'abord, si vous permettez, d'abord les points communs, c'est l'adoration du Seigneur qui est toujours mise à la messe, et c'est bien le sacrifice de la Sainte Messe qui est exprimé, mais exprimé d'une manière différente, on va dire cette fois-ci à la façon orientale. Voilà. Et donc, quand on prend par exemple la liturgie latine, qui est très belle, eh bien, cette liturgie veut insister davantage sur le recueillement, pour pouvoir faire ensuite élever l'esprit vers le Seigneur. Disons que la liturgie chaldéenne, en tout cas, je pourrais presque dire toutes les liturgies orientales, vont faire les choses autrement. En fait, ils vont presque inciter, même pousser les fidèles à adorer. Donc, ils vont être là très partie prenante à chanter avec les chantres de la messe. Vous avez pendant la messe chaldéenne, eh bien, vous avez le prêtre qui va donc à quelques moments avoir la chanter à voix haute certaines parties de la messe. À d'autres moments, donc, il dira les prières à voix basse. Et pendant qu'il dit ses prières à voix basse, pendant ce temps-là, il y a un chantre qui est là et qui va chanter une exhortation prévue par la liturgie, qui va demander aux fidèles de comment se comporter à tel moment de la messe. Et souvent, les fidèles donc vont s'associer avec le chantre. Alors les chants sont faits de façon un peu improvisée, ça suit quelques règles de mélodie, c'est pas aussi réglé, on va dire, que le chant grégorien. Mais donc les fidèles sont là en fait à participer, on peut dire de cette manière-là, avec le chant du chantre. Ça fait que en fait les fidèles sont comme presque obligés de prier, ils se sentent obligés, vous comprenez, hein, je mets ça entre guillemets, hein, ils se sentent vraiment attirés, poussés par la liturgie pour pouvoir adorer, et c'est comme ça qu'après ils élèvent leurs esprits vers Dieu.
Donc, on peut dire, dans le rite chaldéen, la participation des fidèles est requise. Enfin, ils ne peuvent pas être là passifs, à bâiller.
Ah oui, alors si quelqu'un fait, c'est qu'il est, c'était vraiment volontaire de sa part, oui.
Et je voulais vous demander, par exemple, pour la communion, est-ce que c'est la communion sous une espèce, sous deux espèces? Comment est-ce que ça se passe?
Bien, pour le prêtre, bien entendu, c'est sous les deux espèces. Le diacre aussi. S'il y a un diacre qui assiste, c'est sous les deux espèces. C'est la formule qui est proposée dans la liturgie. Mais pour les fidèles, par contre, c'est sous une seule espèce.
D'accord. Donc, ils reçoivent l'hostie.
À genoux.
À genoux, voilà. Donc là, un romain ne serait pas surpris. Quoi,
non, à genoux, sur la langue, les règles classiques.
Voilà. Et alors, il faut peut-être dire aux auditeurs de Radio Courtoisie que cette messe, vous la célébrez en région parisienne, donc elle est accessible. Même si on n'est pas chaldéen, on a le droit d'assister à cette messe et on peut venir en région parisienne nous voir, participer, prier avec vous.
Ah oui, et tout le monde est le bienvenu. La messe se célèbre déjà donc depuis maintenant à peu près 10 ans. À Pontoise, c'est la chapelle Saint-Mathias, c'est au 3 boulevard des Cordeliers, à Pontoise. À 10h30, tous les dimanches, la messe y est célébrée. Et alors effectivement, vous vous souvenez un point, c'est que pour remplir, observer la loi du dimanche, d'assister à la messe, eh bien l'Église demande à ce que ce soit un rite qui soit catholique. Or, aussi bien que le rite latin, donc le rite chaldéen aussi, eh bien, est un rite catholique. En y assistant, on remplit la loi du dimanche.
De ne pas obligé d'aller à une deuxième messe. Non. Si on va dans votre rite, on a rempli l'obligation dominicale.
Ah oui, tout à fait, oui. Ce qu'il faut, c'est après pouvoir savoir si on en profite spirituellement. Alors, de fait, les fidèles de rite latin pourront peut-être venir une fois ou l'autre par curiosité. Ils n'auront pas besoin d'assister à une deuxième messe ce jour-là. Mais est-ce qu'ils vont en profiter spirituellement? Ça, c'est une autre question. Voilà.
Et bien alors, de façon paradoxale, je vais vous demander, mais est-ce que pour des latins, suivre une liturgie en araméen, c'est pas de l'hébreu, enfin, ce qui risque de ne rien comprendre?
Alors, heureusement que j'ai préparé un livret pour pouvoir les aider avec une double colonne dans laquelle, en fait, ils ont une partie de la traduction qui est mise en français, et puis une autre partie qui est écrite avec des lettres françaises, mais qui, en fait, permet de retrouver le son chaldéen. Parce que le chaldéen, l'araméen, s'écrit, en fait, de droite à gauche, et puis avec des lettres complètement différentes de l'alphabet latin que tout le monde connaît. Eh bien, alors j'ai dû faire donc ce qu'on appelle le phonétique, c'est-à-dire, en fait, écrire avec des lettres françaises, mais permettant d'avoir le son chaldéen lui-même.
Et prononcé, oui, voilà. D'accord. Donc, vous êtes déjà prêt pour aider les acteurs de Mel Gibson. Vous savez donner la prononciation, donc ça, c'est très important. Et essentiellement, j'imagine que l'assistance, ce sont quand même des gens appartenant à la diaspora chaldéenne en France, donc des Syriens, des Turcs comme vous. Enfin, c'est surtout le public qui vient.
Tout à fait, tout à fait. Ils sont tous chaldéens, bien entendu.
Oui.
Après, ils peuvent venir de pays différents. On n'a pas de pays. Nous sommes un peuple qui avons duré déjà depuis donc déjà des millénaires. Hein. On parle déjà des chaldéens depuis Abraham. Eh bien, on a donc été évangélisé par l'apôtre Saint Thomas et on a gardé la foi, mais on n'a jamais eu de pays. On n'avait jamais gouverné un pays. On était toujours là. Et de fait, on a toujours maintenu en même temps notre culture, bien entendu, mais aussi surtout la foi.
Oui.
Et c'est ça qui a été préservé. Alors quand vous venez à la chapelle Saint-Mathias à Pontoise, effectivement, vous allez rencontrer uniquement des Chaldéens.
Voilà. Et quand vous dites maintenir la foi, est-ce qu'il y a eu pour les Chaldéens aussi des tentatives de réforme, comme dans le rite latin, ou avec une nouvelle messe, en langue vernaculaire? Est-ce que cette menace existe aussi?
Malheureusement, elle a déjà existé.
Ah oui. Fait.
Et ça a déjà commencé tout de suite après le Concile Vatican II, c'était en 1971. Le patriarche de l'époque, qui est Monseigneur Paul Chéreau II, le patriarche donc Paul Chéreau II, avait déjà fait un certain allègement, si on pourrait appeler ça comme ça, de la messe. Substantiellement, ça ne changeait pas l'idée de sacrifice. Toutefois, il y avait des choses qui étaient un peu problématiques, notamment la question du prêtre quand il ne se met presque plus à genoux, en fait, dans la liturgie de 71. Il est seulement au moment de la consécration, donc c'était au moins ça. Mais pour le reste du temps, le prêtre ne faisait plus de génuflexion. Et parfois, dans la liturgie traditionnelle, eh bien, le prêtre récite des prières en restant à genoux. C'est pas très long, ce sont quelques prières, mais il reste à genoux. Et on compte à peu près, si je ne me trompe pas, 18 génuflexions dans la messe chaldéenne traditionnelle, bon, qui ont été supprimées par la liturgie donc, de 71, à part celles qui entourent la consécration. Et puis, c'est tout récemment, enfin presque, ça fait maintenant 11 ans, que le patriarche actuel, Monseigneur Louis Sacco, a malheureusement réformé complètement la messe. Il avait même mis dans un synode que la messe ne faut plus la voir comme un sacrifice, mais c'est plutôt un rassemblement.
Et comme un
Une
repas
fête.
aussi, c'est un petit peu la
Oui.
tendance protestantisante
Malheureusement.
qu'il y a avec la messe réformée par Monseigneur Bounini, enfin la messe de 69, c'est ça.
Malheureusement, oui. Il n'y a pas très longtemps, j'étais reçu ici par Madame le Pape. On avait parlé un petit peu de ça. Et effectivement, en fait, elle avait elle-même, puisqu'elle avait publié un livre sur la liturgie d'Orient à Paris, eh bien, elle avait assisté à la messe chaldéenne réformée, donc de 2015, 2014 en vrai, qui a été donc réformée à ce moment-là. Elle a assisté après à cette messe-là, donc il y a peut-être un an ou deux. Et elle avait dit, j'avais l'impression d'assister à une messe Paul VI, dite dans une autre langue.
Ah oui, c'est ça. Donc c'est très très explicite. Oui. Et vous-même, vous célébrez dans le rite traditionnel, alors.
Ah
C'est ça, voilà. Vous avez vos 18 génuflexions.
oui, c'est ça.
Parfait, très bien. Alors, dites-nous un petit peu, qu'est-ce qu'il y a de spécifique, peut-être, dans le rite chaldéen pour le temps de pénitence qu'est le carême? Est-ce qu'il y a des choses particulières que les Latins ne font pas parce qu'ils sont beaucoup moins stricts que vous?
Alors, déjà une chose à savoir dans l'Église chaldéenne, uniquement pour le temps du carême, l'Église a voulu que le temps soit compté différemment. Je m'explique. C'est que vous savez qu'on compte normalement un jour de minuit à minuit. Eh bien, pour le temps du carême, l'Église a voulu faire les choses autrement, un peu comme c'était dans l'Ancien Testament, de compter en fait à partir du coucher du soleil. Donc le coucher du soleil commence déjà la journée du lendemain. Alors j'ai dit cela parce que ça peut expliquer certaines choses, notamment que dans l'Église chaldéenne, à peu près jusqu'en 1915, oui, c'était le moment du génocide, eh bien en fait le jeûne du carême, les gens avaient droit à une collation le matin et le midi, et quand le soleil se couchait, là ils assistaient tous à la messe, au moment du coucher du soleil. Et puis, après la messe, ils rentraient chez eux pour prendre leur repas,
Voilà.
possible, le seul repas qu'ils pouvaient prendre
Et
dans la
donc c'était
journée.
dans la soirée.
Voilà.
Voilà, ouais.
Oui. Ils mangeaient le soir et ensuite, après, ils se réveillaient le lendemain, donc leur collation possible. Ensuite, là, le midi, pareil, collation possible. Ils attendaient le coucher du soleil et tout le monde, après, allait à la Sainte Messe pendant le temps du carême. Hein.
Alors ça, vous dites, c'est jusqu'au début du XXe siècle. Et actuellement, vous-même, est-ce que il y a des pratiques que les Latins ne suivent pas, mais que vous suivez pour le carême, ou bien c'est comme pour les Latins, l'abstinence, le jeûne, les vendredis de carême, qu'est-ce que
Eh bien,
le mercredi saint et le vendredi saint, par exemple.
alors dans les temps anciens, il y avait l'abstinence donc de viande, ça c'est assez classique, hein, des œufs et du laitage, et même du poisson pour certains moments. Le carême en l'occurrence, il y avait l'abstinence même du poisson. Ensuite, après avec le temps, finalement l'abstinence du poisson a été levée, et maintenant donc c'est plutôt l'abstinence de viande, des œufs et du laitage et des laitages. Et vous voyez, souvent on se pose la question pourquoi on parle des œufs de Pâques, mais parce qu'en fait les œufs étaient conservés, hein, ça se gardait pendant tout le temps le carême, et donc les Chaldéens, dès que le carême commençait, Eh bien, les œufs étaient gardés jusqu'au moment de Pâques.
Et donc, on ne s'en servait qu'à la fin du carême, donc pour Pâques, c'est
tout
ça?
Tout à fait. Et même, ils avaient après un jeu, donc ils cuisaient les œufs, toujours sans enlever la coquille. Et puis, ils faisaient comme, on peut dire, un peu une bataille d'œufs. Quand je m'explique, hein,
Oui.
c'est pas les œufs entre eux, non, c'est pas du tout. C'est qu'ils tenaient un œuf dans une main, l'autre personne aussi tenait un œuf. Et puis, il devait frapper avec l'œuf sur l'autre œuf. Et l'œuf qui cassait, bah, c'était la personne qui avait l'œuf cassé avait perdu.
Ah
Voilà.
voilà. Et par exemple, la cérémonie des cendres, donc le mercredi des cendres, qui va être d'ailleurs la semaine prochaine, c'est la même chose, il y a cette cérémonie des
Elle
cendres.
n'existe pas chez nous, non.
D'accord. Ah,
Et nous, le carême, en fait, il est compté d'une manière un peu différente que dans le rite latin. C'est que dans le rite latin, en fait, on compte 40 jours sur une période de 46 jours. Parce que le dimanche, il n'y a pas de jeûne. Et donc, c'est pour ça que dans le rite latin, le carême commence le mercredi des cendres. Mais nous, on compte différemment le carême. On le compte en fait en deux parties, si vous voulez. Il y a ces 7 semaines de 7 jours. Ça fait que ce dimanche qui vient pour nous, c'est le premier dimanche de carême. Voilà.
Oh.
Alors que pour dans le rite latin, en fait, ce sera que le dimanche qui va suivre le mercredi des
C'est
cendres.
ça la quinquagésime et après le mercredi sont quadragésime, ouais, c'est
Voilà.
ça. Ah oui, d'accord.
Alors nous, c'est donc en 7 semaines, et les 6 premières semaines, ça fait donc 6 fois 7, 42, eh bien, c'est à peu près les 40 jours, si vous voulez, de carême qui sont donc donnés. Donc nous, notre carême commence donc dès ce premier dimanche qui vient. Et la dernière semaine, donc il y a la semaine sainte, c'est aussi une semaine de jeûne, mais de jeûne et d'abstinence, mais que l'Église chrétienne demande à ce qu'on offre spécialement pour s'unir à la passion de notre Seigneur. Voilà, donc l'intention est déjà donnée pour la dernière semaine, voilà,
Oui.
par l'Église chrétienne. Mais par contre, pour la première partie, donc les 6 premières semaines, en fait, c'est un carême, on va dire, un peu avec une intention qui peut être personnelle, comme on peut avoir.
D'accord.
Voilà.
Alors, justement, la semaine sainte, le chemin de croix, c'est une pratique, une dévotion chez vous, parce que on sait que Saint François, les franciscains nous ont appris, ils nous ont donné la crèche, mais aussi la dévotion au chemin de croix. Est-ce que chez vous aussi?
Oui, ça s'est répandu, c'est venu jusque chez nous.
Ah voilà.
Et donc ça se fait encore maintenant. En tout cas, moi je le propose bien aux fidèles. Tous les vendredis, je leur fais un chemin de croix. Voilà.
Donc on va répéter d'ailleurs, si vous voulez, donc c'est à Pontoise,
Oui.
c'est
La
rue des
chapelle.
Cordeliers.
Boulevard. Boulevard.
Boulevard, oh là, ça change
Il
tout.
faut vraiment faire attention parce
Ouais.
qu'il y a effectivement une rue des Cordeliers qui
Ah,
donne sur le boulevard des
d'abord, mais
Cordeliers.
il faut aller
Voilà.
tout de suite au boulevard.
Voilà.
C'est ça, donc le rite chaldéen à Pontoise, un boulevard devant lui, très bien. Et c'est quel numéro?
Le 3 boulevard
3 boulevard des Cordeliers
à Pontoise.
à Pontoise. Et la messe tous les dimanches est à
10h30.
10h30. Et vous disiez par exemple que si on voulait assister au chemin de croix, tous les vendredis, donc là c'est en fin de
Alors
journée
là, c'est
le.
un peu plus compliqué. Mais là, ils peuvent aussi me contacter par téléphone
Ah, très bien.
au téléphone de la chapelle. Et puis
Très
voilà.
bien. Et là, sur la porte latine, on a vos coordonnées, mais vous pouvez peut-être les donner. Il y a un numéro de la chapelle
Je
ou
l'ai
pas spécialement.
pas en tête, mais c'est la chapelle
Saint-Mathias,
Saint-Mathias,
c'est bien.
donc
Alors,
après qui donne aussi de la chapelle Sainte-Honorine, en fait. C'est le même numéro de téléphone.
Conflans-Sainte-Honorine, c'est le
Voilà.
même téléphone que Conflans-Sainte-Honorine, c'est-à-dire à Conflans, et puis Saint-Mathias. Mais Guylaine, qui a des renseignements sur tout le monde, va vous trouver cela. Et alors, Pâques, comment est-ce que vous le fêtez, cette fête-là? Est-ce que c'est... Alors, on a compris que les œufs étaient à nouveau permis, qu'on pouvait même jouer avec,
Oui.
mais comment est-ce que ça se passe? Par exemple, vous avez les mêmes couleurs que nous, les mêmes couleurs liturgiques. Est-ce que on passe du violet au blanc à ce moment-là?
Tout à
Oui,
fait, ça se passe
d'accord.
comme ça. Et donc,
Est-ce qu'on sonne les
Pâques.
cloches? Est-ce que les cloches reviennent ou non? Parce qu'elles vont à Rome, elles vont peut-être pas.
Et pas en Orient, c'est ça. Non, non, c'est pas. Alors, c'est pas le cas pour nous, en ce qui concerne les cloches. En revanche, je vous disais tout à l'heure que le temps liturgique dans le carême commençait à partir. Donc, le jour commençait à partir du coucher du soleil. Eh bien, donc, Pâques va commencer en fait au moment du coucher du soleil. Ça fait que la fête de Pâques commence, on va dire, vers 19h, 20h, quand le soleil est couché. Alors, à ce moment-là, eh bien, le prêtre est habillé en violet. Comment se passe la liturgie? Déjà depuis le Vendredi Saint, il y a eu un cercueil dans lequel le Christ a été détaché d'une croix. est posée dans le cercueil.
Réellement,
oui.
C'est ça, d'accord.
Et donc le prêtre prend la croix qui est donc à l'autel, il la fait descendre sur l'autel, il prend le Christ qu'il va entourer de bandeaux de lin, un peu comme ça s'est passé pour notre Seigneur lui-même dans le jour de sa mort. Il va être déposé donc dans le cercueil et il va rester comme ça sur l'autel jusqu'au lendemain, le samedi saint. Et donc au moment du coucher du soleil, le prêtre vient avec la même couleur d'habit. Donc il est en aube avec l'étoile noire cette fois-ci. Eh bien, il va donc. Il y aura un office, ce seront les vêpres en fait. Et ensuite, le Christ va être rattaché à la croix, et c'est à ce moment-là qu'il change ensuite sa couleur de vêtements. Il passe donc du noir, cette fois-ci, maintenant au blanc. Et donc, après, l'autel est de nouveau orné avec toutes les fleurs qui ont dû être enlevées, les chandeliers, etc.
Il y a une veillée pascale, comme chez les latins.
Voilà.
Et bien, exactement, voilà.
C'est ça, c'est ce qui se passe. Mais ça se passe au coucher du soleil. Et donc, dès que le soleil est couché, eh bien, la messe de Pâques commence. Et donc, les fidèles, ils assistent à la messe de Pâques à ce moment-là. Ensuite, les fidèles reviennent le lendemain matin, puisque notre Seigneur est venu voir ses apôtres le lendemain matin, enfin en tout cas dans la matinée. Au début, bien entendu, il a vu Sainte Marie-Madeleine et ainsi que toutes les autres femmes. Mais ensuite, il va voir les apôtres pour leur donner la paix. Il va leur dire deux fois que la paix soit avec vous. Et donc l'Église chaldéenne va s'axer, va faire tout en sorte pour que... il y aura la paix qui sera donnée aux fidèles. Donc plusieurs fois, le prêtre va proclamer la paix et il va la donner aux fidèles.
Ah, c'est bien. Alors je vois, parce que Hélène l'a trouvé pour moi, le 3 boulevard des Cordeliers, donc à Pontoise, et on peut téléphoner au 01 34 90 15 40. 01 34 90 15 40. Et là, on a tous les renseignements pour toute la cérémonie et de la Semaine Sainte et du jour de Pâques.
Voilà, ça. Voilà.
Et alors après, j'imagine que ce sont de grandes festivités pour Pâques. Est-ce qu'il n'y a pas que des œufs, j'imagine?
Non. Il n'y a pas que des œufs. Et en fait, on reprend toute la cuisine qu'on avait dû laisser. Donc, les œufs, tout ce qui était à base de lait aussi. Et la viande, bien entendu. Hein, tout le monde attend ça quand Carême est terminé. Et donc, y a des plats typiquement chaldéens qui sont préparés. Notamment, par exemple, je pourrais en donner un. On appelle ça la chamosta. C'est en fait une sorte de... Comment dire, de galettes faites à base de semoule, si je ne me trompe pas, qui est farcie, qu'on met après avec de la betterave. Donc il y a ces fameuses galettes avec des betteraves à côté, qu'on met dans du jus de raisin et qu'on fait cuire. Alors après, je ne peux pas vous dire comment faire. Je vois ma maman faire, mais je ne sais pas faire moi. Mais c'est très bon, en tout cas.
Ah, très, très bien. Alors, avant de nous quitter, j'ai évidemment de vous demander en araméen, comment est-ce qu'on peut souhaiter un Saint Carême et une sainte fête de Pâques, et comment est-ce que ça se dit?
Alors, pour la fête de Pâques, donc, il y a deux façons de faire. La première, c'est de souhaiter une fête qui soit sainte. Et donc, on va dire « Hawe et Dorbricha ». Et c'est donc que votre fête soit bénie. Et les gens répondent, alors j'ai d'abord en araméen, puis je traduirai, « Lor le beitur le kuleyali detakadishta adiyorshi hawe bricha ». C'est-à-dire, en fait, puisque la première personne a dit que votre fête soit bénie, l'autre répond en disant, eh bien, à vous, à votre famille, ainsi qu'à toute l'Église catholique, et qu'elle soit bénie, donc à vous aussi qu'elle soit bénie, voilà. Donc,
c'est merveilleux.
C'est comme ça qu'on dit. Et l'autre façon de dire, c'est « Shardi illoh qum le maran ». Ça veut dire en fait, voilà, je vous annonce une bonne nouvelle, le Christ est ressuscité. Et on répond en disant que gloire à son nom et on demande les prières de sa Sainte Mère.
Mmh.
Voilà.
Très, très beau. Un grand merci, monsieur Lavey. Alors, je vous souhaite, avant de Sainte Fête de Pâques, un bon carême.
Oui, merci. Oui.
Surtout que vous, il commence dès dimanche.
Oui, tout à fait.
C'est ça. Alors, donc, un bon carême. Et puis ensuite, bien sûr, avec toute la communauté chaldéenne. On sait combien il y a à peu près de chaldéens en France où on
estime... En France, je ne saurais pas vous dire. En région parisienne, on dit entre 15 et 20 000. Hein.
D'accord.
Oui.
Ah, très bien. Bon, mais alors un grand merci et puis à bientôt.
Merci, monsieur Labia. À bientôt, oui.
Chers amis de Radio Courtoisie, j'ai au téléphone Monsieur l'abbé Éric Perron, qui nous fait l'amitié d'être des nôtres alors qu'il est pris par une session. Mais nous allons, avant de l'entendre, nous allons écouter un message de la radio, un message important.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Eh bien voilà, vous avez compris qu'il était important parce que c'est l'avenir. Et l'avenir de la radio, c'est vous. On a besoin de votre aide, donc soutenez la radio. Elle vous soutient moralement, vous pouvez la soutenir financièrement, je ne vous en demande pas plus, mais soyez généreux. Alors, nous avons un rendez-vous, j'aimerais bien que Guylaine nous dise.
Les conférences Sainte-Cécile donnent une réunion, une conférence, très exactement, le dimanche 15 février à 17h30, sur le thème « La musique liturgique traditionnelle aujourd'hui » par l'abbé Louis-Marie Gelineau. Ça aura lieu 20 rue Gerbert, dans le 15e arrondissement de Paris. Les places étant limitées, prévenir Marie-Vonne Tréguier au 06 81 69 90 04.
Un grand merci. Alors, je voudrais aussi annoncer l'exposition que notre ami Christophe Allard organise sur le Carmel, une exposition qui s'intitule « D'eau et de feu ». Il est venu nous en parler à plusieurs reprises à ce micro. Et là, il s'exporte, il va à l'étranger, puisque le dimanche 22 février, cette exposition se trouvera à Bruxelles, en l'église Saint-Joseph, c'est-à-dire au square Frère Orban. Frère Orban, square Saint-Joseph, église Saint-Joseph, donc à Bruxelles, toute la journée du 22 février. Et maintenant, nous avons la joie de recevoir M. l'abbé Perron. M. l'abbé, vous m'entendez ?
Je vous entends. Bonsoir, Monsieur l'abbé.
Bonsoir, merci beaucoup. Alors, on reste un peu dans le thème que développait déjà Monsieur l'abbé Sabur. C'est toujours le carême, qui d'ailleurs va commencer la semaine prochaine. Et vous avez à cette occasion prévu pour les auditeurs de Radio Courtoisie et pour tous les fidèles en général, un disque qui doit aider à la méditation, qui doit rapprocher de Jésus crucifié. Et ça s'intitule « Eia Mater ». Via Crucis, Via Crucis, c'est le chemin de croix. Et Eia Mater, vous allez dire aux auditeurs de quoi est-ce que c'est extrait.
Alors, Eia Mater, c'est le début d'une strophe du Stabat Mater, et c'est aussi le titre de la 10e piste du CD, qui est un extrait du Stabat Mater de Antonín Dvořák, et nous avons choisi cette invocation, cette exclamation envers la Mère de Dieu, comme titre de ce CD, et la couverture d'ailleurs représente la Vierge Marie avec notre Seigneur Jésus-Christ dans ses bras, à la descente de la croix par Fra Angelico.
Et ça, c'est une Pietà, on peut dire, elle est là et elle le reçoit, oui. Alors, chaque fois que vous faites paraître un disque, ce sont les petits chanteurs de Saint-Joseph qui interprètent les morceaux que vous avez choisis. Vous pouvez nous les présenter un peu, qui sont ces petits chanteurs ?
Alors, les petits chanteurs de Saint-Joseph, c'est le chœur, la chorale de l'école Saint-Joseph des Carmes, qui est une école du sud de la France, près de Carcassonne, avec de nombreux élèves, près de 350. Et dans le collège-lycée, nous proposons aux volontaires de chanter, de faire partie de ces petits chanteurs. Nous avons quasiment 70 choristes qui travaillent tout au long de l'année. Le but étant principalement d'orner la liturgie de la messe, mais il nous arrive aussi, par souci d'éducation, pour pousser le travail jusqu'au bout, et puis pour faire profiter aussi d'autres oreilles de ces voix enfantines qui charment toujours les chœurs, eh bien nous faisons des concerts à droite à gauche, surtout dans le sud, bien sûr, autour de Carcassonne. Et puis, nous avons enregistré donc 7 CD depuis 2013, on peut dire le début de l'aventure des petits chanteurs.
Voilà. Et vous pouvez peut-être rappeler, peut-être indiquer aux auditeurs quels sont les CD qui sont les plus demandés ou ceux dont vous êtes vous-même légitimement fiers. Avant qu'on parle de cette dernière sortie, ce dernier disque, qu'est-ce que vous avez eu avant? Je pense qu'il y a dû y avoir un disque sur la Sainte Vierge.
Alors, à strictement parler, non. On a sorti deux CD de chants de Noël qui sont très, très appréciés, comme toujours les chants de Noël, c'est vrai. C'est vrai que c'est très touchant. Et puis cinq CD de polyphonie sacrée, diverses et variées, qui se correspondent en fait au travail de toute l'année, sans thème particulier.
D'accord. Et là, alors on peut dire que Eia Mater, c'est votre premier CD marial.
Oui, sauf qu'il s'agit donc... Le titre est marial et tout est orienté vers la contemplation de la passion puisque c'est un chemin de croix. Voilà. Il y a ceci d'original que avant chaque piste musicale, il y a une petite méditation qui correspond en fait à une station du chemin de croix. Donc c'est vraiment comme un chemin de croix médité, mais en musique.
Oui. Et là, on peut le dire, donc avant chaque... morceaux de musique chantés par les petits chanteurs, il y a effectivement, dit d'ailleurs par l'auteur lui-même, qui est M. l'abbé Leroux, un sonnet, c'est ça, qui est une méditation poétique sur les stations, les 14 stations du chemin de croix, c'est bien ça.
Tout à fait.
Et ça c'est nouveau, là, c'est la première fois que vous avez ce mélange de poésie et de musique.
Exactement, en fait c'est une idée qui est venue... au fur et à mesure, parce que M. l'abbé Leroux m'avait proposé ce chemin de croix. Tous les deux, nous sommes amateurs de poésie, donc il me l'avait soumis, on en avait parlé, voilà. Je lui avais fait deux ou trois petites remarques, mais très légères, parce que bon, il est très doué, il n'a pas besoin de moi. Mmh. Et en fait, à l'occasion d'un concert juste avant la Semaine Sainte, nous avions fait ce principe, donc méditation, puis polyphonie. Et ça avait énormément plu au public.
Oui.
Il n'était pas seulement un public catholique de la tradition, c'était un public de bord. Ça a été l'occasion pour eux de méditer le chemin de croix. Je pense que peut-être ce n'était pas très fréquent. Mais en tout cas, ça a beaucoup plu. Et donc, je me suis décidé, avec l'autorisation de mon supérieur, de lancer ce projet de CD.
Et on peut donc dire que c'est un CD apostolique, parce que, au fond, si on veut découvrir ce chemin de croix, si on veut mieux connaître la passion... et qu'on n'a pas beaucoup, beaucoup de culture religieuse, ça peut arriver. C'est une très belle introduction, une belle entrée dans la méditation, non?
Tout à fait, oui.
Et ça, vous l'avez, au fond, vous l'avez vous-même déjà testé, si je puis dire, puisque vous dites que c'était un concert, donc des gens qui sont peut-être venus justement pour un concert, c'est-à-dire simplement de la musique, et qui se sont ressortis élevés, quoi.
Tout à fait. Les fidèles aussi, qui ne s'attendaient peut-être pas... à ce schéma de concert, était ravi de l'ensemble.
Là, vous retrouvez cette intuition très juste de Charlier qui disait la musique n'est pas une distraction, c'est une élévation. Et je crois que c'est très vrai.
Ce qui est flagrant dans les deux concerts que nous avons fait, dont on a fait deux de cette manière, c'est que les gens n'avaient pas envie d'applaudir.
Voilà.
Parce qu'il y avait cette ambiance.
Oui. Est-ce que vous êtes proche de votre combiné téléphonique? Parce que de temps en temps, il y a un petit blanc. On ne vous entend pas très bien.
Alors, je fais attention.
S'il vous plaît, voilà, c'est ça, restez très proche. Et alors, je vais peut-être vous demander de réagir. J'ai choisi, parce que je ne connaissais pas ce compositeur, tout simplement. C'est un compositeur qui vous offre votre 30e piste. C'est un Allemand né à Vaduz, donc c'est-à-dire à côté, et que Reinberger, je ne connaissais pas, et vous avez pris là un extrait que je trouve très très beau. C'est le Quando Corpus là, de Josef Reinberger. On l'écoute et puis vous nous dites un petit peu ce qui vous plaît en lui.
Très bien.
Thank you.
Voilà. Donc c'est un petit fragment de cette piste. Et on voit bien l'ampleur du chant, c'est très beau. Alors, comment le connaissiez-vous? Pourquoi l'avez-vous pris? C'est lui qui conclut votre disque, il faut le dire.
Tout à fait. Alors, c'est parce que donc, c'est la dernière strophe du Stabat Mater. Quand notre corps mourra, faites qu'à notre âme soit donnée la gloire du paradis. Donc, c'était parfait pour la 14e station. Et j'aime beaucoup cette interprétation de l'auteur. Quoi qu'elle soit assez originale, puisque le chef de chœur, M. Sio, avait dit que c'était étonnant, puisque à la fin, quand on dit la gloire du paradis, on en attendrait plutôt une montée.
Oui.
Et lui fait une descente, qui est très belle d'ailleurs. Mais... Donc j'aime beaucoup le rythme et le côté vraiment suppliant, mais comme si on criait vers le ciel vraiment de nous donner cette gloire du paradis, alors avec les voix d'enfants en plus.
Oui, ça c'est merveilleux. Alors, j'ouvre une petite parenthèse, j'ai vu que vous aviez enregistré ce CD pendant les vacances. Est-ce que vous avez vraiment... Tous vos petits chanteurs, en plein mois de juillet, est-ce qu'ils sont là? Parce que j'ai vu que ça, c'était dans une très belle église en Ariège, où le curé, l'abbé Savournin, je crois, à la Roque-d'Olme, vous accueille. Et ils sont au rendez-vous ou bien ils disent non, c'est les vacances, vous n'allez pas nous voir?
Non, ils sont au rendez-vous parce que c'est une échéance voilà, qu'ils attendent. Ils sont très fiers de l'avoir faite. D'avoir fait ce CD, il a pu arriver dans tous les CD que nous avons fait que pour l'un ou l'autre, je dusse peut-être essayer de le convaincre un peu plus, mais globalement, il y a une vraie émulation et les garçons n'ont pas peur de sacrifier quelques jours de vacances pour faire ce travail. Et puis bon, je suis aussi assez malin pour faire en sorte que cette semaine soit aussi très agréable par d'autres côtés.
Ah voilà, donc ils sont... Mais ils ont quand même, c'est ça, cette passion du chant, vous arrivez à leur communiquer cet amour. Et je pense que pour eux aussi, ça doit être une élévation, une façon de mieux entrer d'ailleurs dans la liturgie et de méditer de façon tout à fait accessible. Comme là, vous nous détaillez un petit peu la composition de ce Condo Corpus. C'est vrai qu'on doit suivre, ça monte, ça descend, ça s'amplifie, il y a un rythme étonnant. On vit et on vibre, me semble-t-il.
Tout à fait, oui. Alors, en tout cas, c'est ce que j'espère vivement, mais je suis persuadé que c'est vrai. Il y a aussi toute une dimension éducative, parce qu'on se bat contre les musiques non seulement laides, mais mauvaises. Et en fait, ces garçons-là, j'ose l'espérer du moins, et je crois vraiment que c'est le cas, comme ils ont l'habitude des belles choses, eh bien,
oui.
Ils vont pas, ou en tout cas beaucoup moins facilement, vers les scènes du monde, et qui sont affreuses par beaucoup de côtés.
Et alors, un petit peu, on voit qu'il y a des voix très jeunes, mais il y a aussi, vous devez avoir quand même des basses. Vous avez dit que c'était un collège, mais aussi un lycée. C'est assez facile de trouver tous les pupitres, vous avez toutes les voix, vous les...
Alors, nous avons la chance d'avoir beaucoup d'élèves, donc
oui.
Forcément...
On peut dire, parce que vous n'allez pas oser le dire, mais moi, j'ai osé, vous êtes la plus grosse école de la fatalité, Saint-Pédis, me semble-t-il.
En France.
Oui, c'est ça, voilà. 350, oui. C'est très beau. Et alors, ça veut dire que là, vous avez justement les basses dont vous avez besoin, vous avez les sopranes, les alti, tout.
Oui, oui, et c'est vrai que sur ce CD, bon, c'était le cas aussi sur d'autres CD, mais sur ce CD, nous avons des pupitres ténor et basses qui sont particulièrement bons et étonnants même pour des garçons qui n'ont pas encore 20 ans. Il y en a le plus âgé, doit avoir 18 et demi,
ouais.
Peut-être, mais... Et en fait, c'est aussi le fruit de toutes ces années, parce que en fait, quand le garçon chante depuis la sixième, bon, il y a la période de la mue, mais il a une habitude, une technique qui fait que rapidement, quand il grandit, il prend une belle voix, une voix bien posée. Et je me fais aussi aider par des laïcs qui sont des professionnels du chant, qui viennent faire travailler les garçons.
Oui. Et vous avez cité M. Sio, je crois, qui dirige C'est ça, c'est le chef. Voilà, voilà, qui est le chef de chœur. Puis tout ça, je le vois parce que j'ai la très belle jaquette de votre disque. Il faut alors les auditeurs, bien sûr, trépignent. Et alors, où est-ce qu'on trouve ce disque? Est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est diffusé? Est-ce que...
Alors,
dites-nous où.
Alors déjà, vous pouvez le trouver normalement dans les procures des prieurés de la fraternité, des chapelles de la fraternité, puisque j'ai fait beaucoup de prospection et j'ai eu une réponse très, très positive de tous mes confrères. Donc à partir de dimanche, en principe, il y a beaucoup de procures qui seront fournies par de ce CD.
Donc c'était le bon moment. Donc on est jeudi et dès dimanche, on peut avoir, à la sortie de la messe, le CD.
Exactement.
Et pour la modique somme de 15 euros, je crois.
C'est cela.
Donc c'est vraiment ce qu'il faut prendre, c'est l'investissement indispensable au début du carême, si on veut justement, parce qu'on doit faire son chemin de croix tous les vendredis de carême, et là on peut le préparer, le méditer grâce à ces très beaux poèmes de l'abbé Leroux, et puis ces pièces musicales. Alors vous êtes assez éclectique, il y a du grégorien, il y a de la polyphonie, et puis il y a ce que nous venons d'entendre. Vous avez parlé aussi de Dvorak. Vous cherchez un petit peu dans toute la palette. Enfin, le répertoire est assez vaste, n'est-ce pas?
Tout à fait, oui. C'est pour rendre le CD aussi plus agréable, parce que c'est vrai que, bon, moi j'aime beaucoup la polyphonie 16e siècle, ça c'est sans conteste possible, mais 14 pistes de polyphonie du 16e siècle, on peut peut-être un petit peu se lasser, alors que là... vraiment de tous les goûts. Puis en même temps, aussi dans notre projet d'éducation, il faut que les garçons touchent un petit peu à toute la belle musique et qu'ils connaissent un petit peu tous les
époques. Alors je peux te donner aussi pour les auditeurs qui n'auraient pas un prieuré très près de chez eux, le site web où on doit pouvoir se procurer. Vous avez une boutique, j'imagine, en ligne, c'est ça?
Oui.
Alors je crois que c'est tout simplement saintjosephdescarmes.com, donc tout attaché, mais saint en toutes lettres. S-A-I-N-T, Joseph, descarmes.com. Et là, on a un onglet pour aller sur la boutique, si on veut. Et puis, il y a même, une adresse électronique. Tout simplement, petit chanteur, au pluriel, petit chanteur, @ Saint-Joseph-Descarmes, à nouveau, S-A-I-N-T, Joseph-Descarmes, tout attaché.fr. Et donc là, on peut vous contacter si on a besoin.
Voilà, on peut soit commander par mail ou sur le site, soit aussi télécharger. Si, par exemple, certaines familles ou certaines personnes, des étudiants, n'ont pas de lecteur CD, ils peuvent télécharger, moyennant un paiement par Internet, le CD en format MP3 pour l'avoir sur une clé USB ou sur l'ordinateur ou je ne sais où.
Et avec cette clé, ils l'écoutent dans leur voiture.
Exactement.
C'est ça. Donc vous êtes très, très, très moderne. Et alors, je sais que vous avez même... une édition internationale, puisque là, on a eu simplement le français, mais vous avez aussi enregistré dans d'autres langues pour que on puisse bénéficier de cette méditation, c'est ça?
Tout à fait, nous l'avons enregistré en anglais et en espagnol. Donc les méditations, les 14 stations ont été traduites d'abord, et ensuite enregistrées en anglais et en espagnol.
Et là, ça n'est que en téléchargement, il n'y a pas de CD.
Voilà, pour le coup, ça n'est que en téléchargement. Dans un premier temps, nous avons fait aussi prospection pour savoir si certains districts sont intéressés par une édition physique de ce CD, mais pour l'instant, on en reste là.
Très, très bien. Alors, je vais redonner les coordonnées. Le CD, c'est EIA Mater. Alors, pour ceux qui ne parlent pas le latin couramment, EIA, et puis Mater, c'est assez facile à avoir. Via Crucis, donc le chemin de croix, ce sont les petits chanteurs de Saint-Joseph. C'est un très beau CD. Et qu'on peut se procurer pour 15 euros, tout simplement 15 euros. Et sur la boutique en ligne, on peut voir les autres CD, ceux dont vous avez parlé, et on peut sans difficulté voir, là, Guylaine qui a sous les yeux peut le dire, allez-y.
En particulier, il y a le lot des 6 derniers CD qui est proposé, un lot à prix réduit, 60 euros.
Donc une affaire, c'est presque un don. Un grand merci, monsieur l'abbé. Puis alors, bonne session. Je suis désolé de vous avoir distrait alors que vous êtes certainement en train de faire de la théologie et du droit canon. Mais merci parce que nous avons parlé de ce carême que nous préparons et grâce à vous, nous allons pouvoir suivre avec plus de ferveur. À bientôt, monsieur l'abbé.
À bientôt, monsieur l'abbé. Merci beaucoup.
Chers amis de Radio Courtoisie, nous nous retrouvons maintenant dans le studio où j'ai la joie d'accueillir Alexandre Maral. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur l'abbé.
Alors, vous êtes conservateur en chef au château de Versailles et vous êtes l'auteur, est-ce qu'on peut dire, d'un livre ou d'une brique?
C'est peut-être le poids d'une brique, oui.
C'est prodigieux, c'est vrai, il faut avouer, il y a quand même... C'est admirable, il faut dire. Vous pouvez dire combien il y a de pages?
Alors exactement, je ne sais pas, mais environ 1500.
C'est ça, voilà, je crois que c'est exactement ça. 1500, c'est édité chez Perrin, à la librairie académique Perrin. C'est admirable. On peut dire que c'est un peu l'œuvre d'une vie, non?
Oui, oui, certainement, oui.
Parce qu'on retrouve ceux qui vous connaissent et qui vous apprécient, retrouvent bien évidemment des choses que vous ayez traitées de façon plus particulière et plus restreinte, en particulier Louis XIV, la mort. Vous avez un petit peu offert là un peu une synthèse de choses que vous aviez, ce qui est normal.
Tout ce que j'aime, tout ce que je connais sur Versailles, oui, voilà, ouais. C'est l'œuvre d'une vie, en effet.
Alors j'ai envie de vous demander, vous êtes Versaillais de cœur depuis combien de temps?
Je suis Toulousain, oui. Mais j'ai aimé Versailles assez jeune.
Oui.
Et j'ai fini par y vivre et y travailler, oui. J'y vis encore.
Mais... Alors ça fait combien d'années que vous êtes... je dis bien Versaillais de cœur, parce que c'est ça, vous êtes tombé amoureux de Versailles.
Oui, je devais avoir 12 ans, 12-13 ans.
Oui.
Donc, ça fait un certain temps maintenant.
C'est ça, oui, parce que bon, vous en avez 22, mais c'est merveilleux. Et est-ce que vous pouvez dire quelle est l'émotion que ça vous a procuré? Enfin, peut-être même d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres auditeurs qui seraient intéressés de savoir comment un jeune enfant peut être séduit par Versailles. Qu'est-ce qui vous a frappé? Je sais que vous êtes un spécialiste de la statuaire, mais enfin, qu'est-ce qui vous a en premier séduit? Est-ce que c'était jardins? Est-ce que c'était les statues?
À l'époque, je n'étais pas du tout spécialiste de la sculpture, mais la beauté, l'unité, l'harmonie.
Oui.
Le fait que c'est un lieu dont toutes les composantes sont conservées,
oui.
Dans un état... Donc on imagine facilement l'éclat de la cour, Louis XIV, l'Ancien Régime. C'est un lieu qui fait rêver, surtout un enfant. Oui.
Oui. Et j'ai envie de vous demander, vous qui avez des enfants, est-ce qu'ils sont contaminés? Est-ce que c'est héréditaire?
Pas autant que je souhaitais, mais ils sont sensibles.
Mais ils ne traînent pas les pieds quand vous leur faites découvrir. On me demande, je vais vous faire une toute petite parenthèse, on me demande de rappeler bien sûr que la chapelle Saint-Mathias à Pontoise accueille bien évidemment la messe traditionnelle latine. Il n'y a pas que le rite chaldéen. D'ailleurs, cette chapelle, nous rappelle cette auditrice, a été fondée par le cher abbé Dubosc et les paroissiens de Sainte-Honorine à côté. Et puis, on nous a demandé aussi le numéro de téléphone s'inscrire à la...
À la conférence de dimanche prochain,
voilà.
Sur la musique liturgique traditionnelle. Et il faut s'inscrire auprès de Mademoiselle Tréguier au 06 81 69 90 04.
Merci beaucoup, Guylaine. Alors, Versailles... C'est pour beaucoup un lieu touristique. Et vous nous expliquez dans cet ouvrage que du temps du roi, d'abord on ne payait pas, c'était gratuit. D'abord ce n'était pas un musée, c'était un palais où on vivait. Et qu'on avait accès au roi comme on n'a pas accès à M. Macron.
Non, non, mais ça c'est la tradition d'Ancien Régime. Le souverain doit être accessible, visible. Et on doit pouvoir lui remettre des suppliques, le voir. Et ça fait partie de l'esprit de la monarchie qui vient du Moyen-Âge.
Donc il n'était pas entouré de gorilles, de barbouzes, de...
Alors non, il y avait une garde,
oui.
La maison militaire. Mais il se promenait dans les jardins en public, il se rendait à la messe, il assistait à la messe en public, il prenait ses repas en public et...
Il se levait en public et se couchait en public.
Également, oui.
Et on pouvait assister et ça semblait normal, quoi. Le roi était un père.
Oui, un père et un père à haïr.
Oui.
Et alors, le lever et le coucher, c'est accessible, mais pas à tout le monde. Les entrées sont triées sur le volet. Mais les repas sont plus publics. Et l'épisode de la journée qui est le plus ouvert, c'est la messe. C'est la messe parce que là, n'importe qui peut y aller et voir le roi.
D'ailleurs, un mémorialiste connu dit qu'on regarde un petit peu plus en direction de la tribune où se trouve le roi que du côté de l'autel.
Ça, c'est parce qu'il veut stigmatiser l'esprit courtisan, mais c'est non.
Ça n'est pas vrai.
Ou sauf peut-être l'œil intérieur, l'attention.
Oui.
peut-être portée sur le roi. Mais pour ça, il faut sonder les reins et les cœurs.
Oui, il n'y a que Dieu qui le fasse. Donc nous ne le ferons pas. Alors, puisque nous sommes à la chapelle, restons-y. C'est une histoire, toute cette chapelle, d'abord.
C'est la plus belle partie du château,
oui.
Je pense. La plus accomplie, celle qui a demandé le plus d'efforts, de finances. Et vraiment, la piété de Louis XIV s'y donne à lire.
Et Louis XIV revendique l'héritage de Saint-Louis. Enfin,
bien sûr. D'ailleurs, cette chapelle, elle évoque la Sainte-Chapelle par ses proportions, sa hauteur, et certaines parties de son programme, c'est vraiment, elle est très proche de l'œuvre de Saint-Louis.
Et comme la Sainte-Chapelle était un reliquaire pour la Sainte-Couronne d'épines, il y a tous les instruments de la Passion, les motifs sont repris
sont aussi repris.
Dans la...
La couronne d'épines notamment.
Exactement.
Et Louis XIV, il fait placer des reliques de Saint-Louis, son ancêtre,
ouais.
Qu'il fait prélever à Saint-Denis et placer à la chapelle.
Et là... Elle a été restaurée il n'y a pas très longtemps.
Alors, ce qui a été restauré, c'est les parties extérieures, la toiture.
Oui.
Redorée d'ailleurs.
Oui.
Mais l'intérieur, je dirais, est dans son jus. Donc,
oui.
C'est magnifique. C'est une partie assez préservée aussi parce que relativement peu accessible par rapport au reste du palais. Donc, les dégâts, ils sont causés par ce surtourisme que vous évoquiez, ils sont moindres.
Alors, on disait, moi j'ai connu ça étant enfant, c'était les parquets qui souffraient le plus,
oui.
À l'époque surtout des talons aiguilles.
Oui, bien sûr. Oui. Ils sont d'ailleurs changés, renouvelés tous les 50 ans.
Parce qu'ils étaient, ils sont abîmés par...
Oui, beaucoup. Puis alors, il y a les graffitis, il y a...
Des graffitis ?
Oui, il y a du vandalisme aussi.
C'est-à-dire que les gens laissent des petits cœurs transpercés de flèches, pas dans le parc, mais carrément dans les petits appartements de Louis XV.
Dans la galerie des glaces, où certains miroirs sont parsemés de ces petits cœurs.
Ah voilà, et que font les gardiens ? Ils ne peuvent pas tout voir, évidemment.
Non, il y a tellement de monde.
Alors, qu'est-ce qui est le plus attirant pour le touriste pour eux, c'est quoi ? C'est d'abord la Galerie des Glaces ou bien...
Aujourd'hui, oui, c'est un peu... Oui, il vient voir la Galerie des Glaces, oui.
C'est surtout ça. Est-ce qu'ils sont sensibles vous le disiez pour vous, moi je suis aussi très sensible, c'est cette harmonie, ces perspectives. Depuis la Galerie des Glaces, cette vue admirable, oui. Ce panorama extraordinaire. Et puis les jardins. Et alors, on parlait, c'est rendre hommage aussi à Louis XIV, parce que Louis XIV, on peut dire, c'est quand même l'architecte du château. Il y a le nôtre, bien sûr, mais aussi des jardins. Il s'est énormément impliqué.
Oui. Il est passionné d'architecture. Et plus que de l'architecture, d'ailleurs, c'est presque l'aménagement du territoire.
Oui.
Il a façonné le site lui-même. Alors, il se sert d'allants qui sont là, mais c'est un travail de collaboration avec le nôtre, avec Ardoin Mansart, l'architecte. Il y a vraiment on le sent très proche et très attentif à ce qu'ils proposent, à ce qu'ils font. Et vraiment, Versailles, c'est son chantier, c'est un chantier royal.
Et on dit, j'ai lu ça sous votre plume, que le Trianon, c'est une idée à lui.
Oui, alors, Ardoin Mansart, qui en était l'architecte, a la mauvaise idée d'aller prendre les eaux en Auvergne. Et pendant ce temps-là, Louis XIV s'empare du chantier et il modifie les propositions de son architecte. Et c'est lui qui invente notamment ce qu'on appelle le péristyle de Trianon, qui est ce morceau d'architecture assez inattendu, inouï d'ailleurs, parce que vous êtes dans la cour et vous avez tout de suite la vue grâce à cette transparence sur le jardin.
Il a pu signer Ludovicus fecit, c'est ça?
Exactement. In venit et fecit.
Et d'où lui vient ce goût? Parce qu'au départ, il faut le dire aux auditeurs d'Arthur Fantasy, donc nous parlons du Versailles d'Alexandre Maral aux éditions Perrin. Alors, je tiens d'ailleurs à rassurer, l'ouvrage est remarquablement fait, il est, c'est vrai, très imposant, c'est pas un livre de poche, on peut le dire, mais il ne coûte que 45 euros, et ça, oui, c'est une prouesse, à mon avis.
Oui, et c'est grâce à la Fondation L'Affût qui a subventionné une partie du... qui a collaboré avec l'éditeur. C'est une coédition.
Oui.
Et je tenais vraiment à ce que ce soit en dessous de la barre des 50 euros, parce que après, ça devient...
C'est prohibitif, on ne peut plus, voilà, on peut plus s'offrir.
Et le but, c'est évidemment de répandre et de communiquer vers ça.
Exactement, exactement. Alors, ce que l'on voit dans votre livre, il y a d'abord une partie, c'est Versailles avant Versailles, c'est-à-dire avant Louis XIV. Alors, qu'est-ce que c'est au départ? C'est Louis XIII. Vous dites, ça n'est pas qu'un petit relais de chasse, c'est quand même déjà quelque chose.
Oui, alors, Louis XIII fait bâtir, il a fait bâtir deux châteaux. Un premier, ouais, bon, qui était très très modeste, puis un second qui est l'actuelle cour de marbre, qui a été englobée et conservée pieusement par Louis XIV. Et en effet, c'est déjà une demeure pour le roi. D'ailleurs, Louis XIII envisageait de s'y retirer. C'est plus qu'un relais de chasse.
Oui. Oui. Alors, je reviens à Louis XIV. D'où lui vient ce goût, ce talent? C'est héréditaire? Il ne tient pas cela de son père? Est-ce que c'est... au contact de tous ces artistes.
C'est surtout Mazarin qui l'a formé, son parrain, parce que son père, il l'a relativement peu connu, il meurt, il n'a même pas 5 ans. Hein. Et donc, Mazarin, qui arrive de Rome, qui est un fin lettré, un homme d'église, avec tout ce que ça représente de culture, d'érudition, et de goût.
Oui.
Et Mazarin l'a vraiment formé sur ce plan-là, à la musique, à l'opéra, à l'architecture, à la peinture, à la sculpture. Il lui doit toute son éducation artistique.
Alors, vous parlez de musique, vous parlez de danse. Il dansait.
Oui,
il dansait très bien.
Il dansait très bien.
On le voit apparaître dans des ballets, carrément.
Et il s'arrête de danser en 1670. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est son premier... Son premier acte de gouvernement, à la mort de Mazarin, il annonce à son entourage qu'il va décider par lui-même, gouverner par lui-même. Ouais. Voilà. Et son premier acte de gouvernement personnel, c'est la fondation de l'Académie royale de danse. Donc c'est vraiment... il a une passion pour cet art aussi.
Ça m'amuse parce que c'est un petit peu... On sait aussi, par exemple, le premier texte de Saint Pidis, le grand pape qui a travaillé sur le modernisme, etc., c'est d'abord sur la musique sacrée.
Oui, il a commencé
par ça. Et oui.
C'est très important, la musique.
Exactement.
Parce que c'est un langage universel qui parle à tous, oui, et à tous les cœurs, et qui dit beaucoup de choses, oui. Et pour un roi, c'est vrai, évidemment un support de son image incroyable.
Alors justement, je voulais en venir à cela. Vous dites que Versailles, il va en faire donc sa demeure, et vous donnez plusieurs raisons, deux en particulier. On gouverne mieux en prenant un peu de recul, donc en clair, il ne faut pas être au Louvre.
C'est déjà d'ailleurs l'idée de Louis XIII.
C'est ça, vous allez nous expliquer ça.
Prend un peu ses distances.
C'est ça, mais... donc il y a Saint-Germain-en-Laye et Versailles. Ça, il faudra que vous nous le disiez un peu. Et puis, il est évident que c'est... une façon aussi d'asseoir son autorité, de faire rayonner ce prestige, comme le soleil doit rayonner. Dites-nous un petit peu quelles sont les intentions du roi architecte, si j'ose dire.
Oui. Alors, prendre ses distances au regard de la capitale, de Paris, c'est très important, surtout à cette période-là, parce qu'on se souvient des horreurs des guerres de religion, la Ligue qui avait... Ensuite, durant la minorité de Louis XIII, il y a eu aussi des factions et Paris. Et puis après, il y a eu la Fronde. Et Paris n'est pas une ville sûre pour un roi. Et surtout dans son palais du Louvre, qui est engoncé dans un parcellaire très, très, très serré. Il faut imaginer à l'époque, il n'y a pas la cour du Carrousel, les maisons, il y a des rues, et même des églises dans ce coin-là. Et donc le palais du Louvre est tributaire de la rue, on peut le dire. Il y a vraiment. Alors donc déjà Louis XIII a l'idée de s'éloigner. En plus, il y a sa mère qui est une mère un peu présente.
Ceci. Je suis sûr.
Et donc il faut aller chercher un lieu où on puisse mieux gouverner à son aise. Donc il y a Saint-Germain. C'est d'ailleurs l'époque aussi où le cardinal de Richelieu, qui est son principal ministre, s'installe à Rueil, et puis Versailles, voilà, qui est une résidence où il peut se retirer et gouverner plus facilement, recevoir aussi ceux qu'il souhaite voir et non pas subir les importuns. Et ça, donc, Louis XIV a bien conscience de cette nécessité topographique. Après, il y a Versailles par rapport au Louvre, c'est un lieu neuf où il va pouvoir donner le façonner à son image, à sa ressemblance, en faire ce qu'il veut. C'est vraiment un lieu qui se prête à tous les possibles et ça, il ne va pas manquer d'exploiter cette.
Vous dites un peu que Versailles, c'est un peu l'illustration de sa devise. D'abord, vous allez rappeler aux auditeurs quelle est la devise de Louis XIV et comment est-ce que ça s'illustre vraiment dans le château.
Alors, sa devise, c'est une formule latine qui nec pluribus impar. Donc, c'est difficile à traduire, pas inégal à plusieurs. Mais elle se comprend, ça c'est ce qu'on appelle le motto, la formule. Et elle se comprend quand elle est rapprochée d'un soleil qui éclaire la terre. Et Louis XIV a donné l'explication de cette devise dans les mémoires qu'il rédige pour son fils. Il dit que de même que le soleil peut éclairer plusieurs mondes, eh bien, de même lui, roi de France, pourrait éclairer, répandre ses bienfaits sur plusieurs royaumes. Il n'est pas inégal à plusieurs, voilà. Et donc, c'est une devise extrêmement ambitieuse, très optimiste en tout cas. Et donc, le Versailles en est un peu l'illustration parce que on est avec cette idée que c'est le palais du soleil à cette époque-là. Il est construit sur un axe est-ouest, axe qui date d'ailleurs de Louis XIII. Donc le soleil se couche dans l'axe de la principale perspective des jardins et du Grand Canal par la suite. Et c'est un lieu donc, où beaucoup des peintures, des sculptures sont en rapport avec le mythe d'Apollon, du soleil, Apollon étant le dieu du soleil, qui répand ses bienfaits aussi. Et c'est le dieu des arts aussi, donc c'est vraiment une figure qui est très, très, à laquelle on a beaucoup recours à cette époque-là. Quand je dis cette époque-là, c'est les années 1660-70, c'est les deux premières décennies du règne personnel de Louis XIV.
Les sujets du royaume sentaient c'était un roi solaire. Est-ce qu'il y avait cette volonté de bien, on dirait bien sûr d'asseoir son autorité, mais est-ce que eux voyaient, vous disiez tout à l'heure, il était accessible, tout le monde pouvait le voir, mais nous n'avons plus trop d'idées de ça parce que nous avons maintenant des souverains biodégradables. Autrefois, c'est tous les 7 ans, maintenant, c'est tous les 5 ans. Bientôt, ça sera tous les 3 ans. C'est ça, tous les 3 ans. On n'a aucune idée de la continuité de l'autorité. Là, vous parlez de Louis XIII, Louis XIV. On va parler, bien sûr, des petits appartements de Louis XV. On parlera du château de Louis XVI, qui n'était pas froid et triste, parce que Louis XVI savait encore ce que c'était qu'une cour. Mais il y a une continuité. Comment est-ce que les sujets vivaient cela ?
Mais on le percevait très bien que c'était un roi solaire et un roi soleil, d'ailleurs, on lui a donné ce surnom. Et puis au cas où on ne l'eût pas compris en visitant les lieux, il suffisait d'acheter le guide, se procurer le premier guide imprimé de Versailles, qui date de 1674, qui est dû à André Félibien. Parce que Versailles est déjà un lieu touristique, vous l'avez dit. Dans les premières pages de ce guide, il est rappelé qu'il n'est pas un décor, pas un lieu de cet endroit qui ne soit sans rapport avec le soleil. Donc, au cas où on ne l'eût pas compris, on ne pouvait le lire dans le guide qui était destiné à faciliter la visite du lieu.
Alors, et tout est symbolique, en particulier dans le parc, enfin, tout est renvoi, enfin, rien n'est au hasard.
Rien n'est au hasard, notamment il y a des bassins, je pense au bassin de Latone, qui est au cœur du dispositif, qui rappelle un épisode de l'enfance d'Apollon. Il y a le bassin d'Apollon avec le char du soleil qui s'élève prêt à éclairer la voûte céleste. Et il y avait la grotte de Tétis, parce qu'elle a été détruite par la suite. La grotte de Tétis, on voyait Apollon au moment du crépuscule descendre de son char. Et puis à l'intérieur du château, il y a eu l'appartement des planètes, qui était là, l'appartement du roi, où chaque salon était dédié à une planète du système solaire, justement. Donc, tout rappeler ce principe solaire.
Alors, ce qu'on peut craindre, c'est ça, c'est que les touristes qui traversent Versailles, qui font Versailles, comme on fait le Sacré-Cœur et on fait Notre-Dame, en 30 minutes, passent à côté de trésors.
Et d'où l'intérêt d'un livre comme ça, puisque, voilà. Justement, j'ambitionne d'orienter.
Ça donnait vraiment l'intelligence du château, enfin arriver à comprendre que rien n'est dû au hasard et tout a été pensé et exécuté selon les plans.
Il ne faut pas faire Versailles, il faut le visiter, s'imprégner, le méditer.
C'est ça, c'est ça, je crois vraiment, c'est ça. Votre livre ouvre à un autre livre, si j'ose dire, parce que Versailles, c'est un peu aussi un livre qu'il faut feuilleter, découvrir. Alors, passons un petit peu pour montrer cette continuité, et pour montrer que vous êtes tout à fait exhaustif. On passe à Louis XV, et là, alors, c'est les petits appartements, qui avaient d'ailleurs été restaurés il y a quelques décennies. Moi, j'ai eu l'occasion de les visiter. Pourquoi il n'aimait pas le faste? Il avait froid dans les grands appartements? Alors, qu'est-ce qui se passait?
Non, il se servait quand même des espaces officiels. En fait, il vit très admiratif dans la continuité de ce modèle dont il a hérité de son arrière-grand-père, Louis XIV. Et il va le respecter. Mais c'est vrai qu'il se fait aménager des espaces privés. Louis XIV en avait eu lui-même, mais simplement, il n'existe plus, donc on ne peut plus s'en rendre compte aujourd'hui. Ceux de Louis XV ont subsisté. Et ce sont des espaces où le souverain peut se retirer à l'abri de la cour, de l'esprit de cour, de ses courtisans qui, c'est vrai, le fatiguent, le harcèlent même. Parce que, en fait, Louis XIV a créé à Versailles un système qui a eu beaucoup de succès. Et au XVIIIe siècle, il y a une forte pression des élites nobiliaires du pays pour faire partie de la cour. Et la cour devient une grosse machine, difficile à régenter. Et le meilleur moyen que trouve Louis XV pour y faire face, eh bien, c'est s'en affranchir un petit peu, donc avec ce système des cabinets du roi, où là, il se retire et il reçoit la société qu'il se choisit. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'est plus accessible, qu'il n'est plus visible, mais il choisit des moments où il redevient un peu un homme privé.
Et j'imagine d'ailleurs que tous ces courtisans ont quantité de choses à demander aussi. Enfin,
oui,
ils sont très intéressés.
Oui, il y a la formule, quand je dispense une grâce, je fais un ingrat et s'en est content. c'est insupportable, cet esprit de cour. Alors, ça a des bons côtés, parce que c'est un creuset de civilisation, c'est un laboratoire de civilité, mais c'est aussi un monde sordide, d'intrigues, de cabales, d'ambition, et donc c'est cet aspect-là que les rois fuient.
Ouais. Alors, où avait placé Louis XVI son atelier de serrurerie? Parce que un peu le genre de recherche, être un petit peu tranquille et pouvoir se livrer à une activité qui fasse un peu oublier les soucis et les fâcheux, comme on disait.
Oui, alors Louis XVI est un roi très manuel. Alors, c'est aussi un grand intellectuel. Il a plusieurs bibliothèques. c'est un homme d'études, mais il aime bien les travaux manuels, plus que son grand-père. Louis XV était capable de tourner des objets en ivoire, par exemple. Louis XVI fait des objets en ivoire, mais il travaille aussi, il a un laboratoire de chimie, un laboratoire de serrurerie, un atelier de serrurerie et un atelier de menuiserie. Donc, il est assez polyvalent. Et ces petits ateliers existent encore. Ils sont logés dans les étages supérieurs, autour de la... Ils donnent sur la cour des serres, qui est une des cours intérieures du château. Alors, évidemment, ce ne sont pas des espaces très accessibles. Mais moi-même, l'atelier, la forge, j'ai mis beaucoup de temps à pouvoir la repérer. Mais ces lieux témoignent des passe-temps de Louis XVI, qui ne faudrait pas réduire à ça. C'est-à-dire, on a l'image du roi serrurier, mais c'est bien autre chose aussi.
Hein. Justement, vous dites qu'il a aussi le sens de l'autorité. Il sait manifester par des fêtes somptueuses. Il y a une magnificence qui est obligatoire. Lorsqu'on est un souverain, on peut pas... Le roi bourgeois, c'est pas Louis XVI.
Ah non, c'est pas un roi bourgeois. Ça, il faut attendre Louis-Philippe.
C'est ça.
Mais Louis XVI, non, il a le sens, en effet, du décorum. Et sous son règne, il y a encore des cérémonies somptueuses à Versailles, notamment le 10 août 1788, donc 4 ans, jour pour jour, avant la chute de la monarchie, on a une réception somptueuse d'un ambassadeur à Versailles, où tout le premier étage du château est transformé en espace de processionnel, avec un trône dans le salon d'Hercule, enfin quelque chose qui a beaucoup frappé les contemporains. Même la cérémonie d'ouverture des états généraux est l'occasion d'un déploiement de faste monarchique. On est encore dans cette tradition héritée de Louis XIV et qu'on maintient parce que on est porté, le lieu porte à ça. Il y a le poids de l'étiquette, mais il y a aussi cet héritage lié au lieu qu'est Versailles.
Ouais. Et alors, ce qu'il y a de merveilleux aussi, c'est que cette magnificence oblige quantité d'artisans à cultiver l'excellence. Et là je voudrais d'ailleurs signaler aux auditeurs qu'on peut voir les tapis à Paris. Il y a une exposition merveilleuse.
Ah, malheureusement, elle est finie.
Elle vient de
mais
finir.
Ça a duré qu'une semaine.
Ah,
c'était mais voilà, somptueux.
Ah oui, c'est ça. C'est déjà fini. Et là, alors
vous avez raison d'évoquer cette exposition parce que on touchait du doigt, on voyait de près ce qu'était cette excellence à laquelle artistes, artisans et ouvriers étaient stimulés. Enfin, leur commanditaire, qui était le roi, l'administration des bâtiments du roi, eh bien, tâchait de tirer le meilleur de toutes ces personnalités. Et Versailles était une vitrine, est encore une vitrine de l'excellence de cet art français, de ses savoir-faire. Aussi de ces ressources liées au royaume de France, puisque la plupart des marbres sont français, les miroirs, les fameux miroirs de la Galerie des Glaces sont de fabrication française, et donc il y avait l'idée d'exalter la richesse d'un royaume.
Alors justement, vous qui vivez sur place, est-ce que vous trouvez facilement encore aujourd'hui des artisans qui sont d'ailleurs souvent même des artistes? On s'est émerveillé pour Notre-Dame. On a dit on trouve encore des compagnons du devoir qui sont capables de refaire la forêt. Ça, est-ce que à Versailles c'est encore possible? Est-ce que vous avez des fontainiers comme du temps de Louis XIV?
Alors il y a des fontainiers en effet qui ont maintenu ou retrouvé des savoir-faire ancestraux. Mais c'est quand même plus facile de réaliser une charpente aujourd'hui ou des tuyauteries de fontaine que en matière de peinture, de sculpture. Là, c'est plus difficile parce qu'il n'y a plus l'enseignement artistique. Ça s'est perdu au XXe siècle, cette tradition. Les écoles des beaux-arts aujourd'hui sont tout sauf des laboratoires qui s'inscrivent dans la tradition de cette excellence, on va dire les choses de manière pudique, et de fait on ne trouve plus aujourd'hui l'équivalent d'un Charles Lebrun, d'un François Girardon, ou pour ne citer que des artistes éminents en peinture et en sculpture.
Vous venez de citer un nom, Charles Lebrun, qui dit quelque chose au paroissien de Saint-Nicolas, puisqu'il est là, il y a le tombeau de sa mère.
Et la chapelle est admirable. D'ailleurs, quand je vais à Saint-Nicolas, je me place de préférence. On voit très bien le maître-autel, d'ailleurs, très bien situé. Et c'est une chapelle très émouvante parce qu'il y a le tombeau de sa mère qui est représenté sortant du cercueil.
C'est la résurrection des corps.
C'est la résurrection des corps. Et puis, il y a son fils qui la regarde. Son fils, un buste de Coisevaux, qui est aussi un immense sculpteur du grand siècle. Et tout ça sous le regard de Saint-Michel Archange et Saint-Charles Borromée au tableau d'autel. Donc, c'est une très, très belle chapelle.
Oui.
Vous avez raison de l'évoquer ici parce que elle est très liée à Versailles aussi.
Mais je dis Saint-Nicolas, et en particulier la chapelle Lebrun, c'est Paris un petit peu dans la banlieue de Versailles. on bénéficie un petit peu de quelques rayons du soleil, parce qu'on retrouve effectivement cette excellence qui... Parce qu'ils ne font pas ça uniquement pour plaire au souverain, quand il s'agit... pour leur famille et surtout pour honorer le Dieu auquel ils croient, ils ont toujours le même souci de développer le meilleur.
Bien sûr, ces artistes grandissaient le roi pour lequel ils travaillaient, mais ils se grandissaient en le grandissant.
Ouais.
Et c'est ça, Lugador a très bien compris cette alchimie, et eux-mêmes aussi. Et donc Versailles, c'est une stimulation perpétuelle, une émulation perpétuelle, vers l'excellence.
Ouais. Alors, je voudrais dire aux auditeurs que non seulement l'ouvrage est remarquable, il est exhaustif, mais alors, il y a aussi un cahier où on a au milieu tous les plans.
Voilà, c'est important de se repérer.
Ça, c'est exactement. On a tout ce qu'il faut. Là, je vois plan du premier étage du château de Versailles, dessin 1673-1674.
Et je dois dire, je me suis inspiré pour ce livre du modèle de Pierre Verlet, qui était un paroissien de Saint-Nicolas du Chardonnay,
oui.
Lui aussi. Et Pierre Verlet a publié un livre sur Versailles en 1961, et qui était émaillé de plans qui permettent de se repérer au cours des descriptions qu'il donne. Et donc, ce modèle m'a beaucoup inspiré. Je voulais faire mon Verlet à moi.
Mais oui, non. Et c'est vrai, là, on voit, il y a aussi quelques gravures, quelques tableaux. Mais moi qui suis très, très sensible, je dois avouer, au parc, il y a de très belles vues, là, sur le parc. Et on peut retrouver, bien sûr, le Grand Canal, les bassins dont vous parliez tout à l'heure. C'est vraiment... Alors, je n'ose pas... Il nous reste 5 minutes. Je ne voudrais pas trop... terminé sur une note triste, mais après, qu'est-ce qui se passe? Versailles,
oui.
Après Versailles, après la monarchie,
alors,
qu'est-ce
que
c'est? Alors,
il y a les terribles périodes révolutionnaires, ouais. Oui, donc on va peut-être passer
rapidement. Oui, s'il vous plaît. Quand est-ce que ça revit? Parce qu'il y a un moment sombre, d'abord, c'est quand aussi le roi est chassé, il est obligé de venir à Paris. Et après, alors passons un petit peu sur la Révolution.
Alors ça va revivre à la fin de la Révolution.
Voilà.
Il y a déjà la création d'un musée dédié à la peinture et à la sculpture française, à l'art français.
Oui.
Il y a les grands travaux de restauration qui sont menés sous l'Empire, et surtout avec Louis XVIII. Et puis arrive Louis-Philippe, dont on a déjà évoqué la figure. Louis-Philippe qui veut réconcilier les Français et donc va, en les faisant communier autour de leurs racines, de leur histoire. Et donc il va y avoir l'idée d'un musée dédié à toutes les gloires de la France, un musée d'histoire. Et il va donc investir le palais et y installer des grandes théories de portraits, de scènes de bataille, de scènes d'histoire, de portraits peints et sculptés des grands hommes qui ont fait la France. Évidemment, Louis XIV a une place tout à fait importante au sein de ces grands hommes. Et ce musée historique va connaître son heure de gloire sous le régime de Juillet, sous le Second Empire aussi. Et puis à partir de la fin du XIXe siècle, à l'initiative d'un conservateur qui s'appelait Pierre de Nolhac, le château retrouve sa dimension Louis XIVienne, d'ancien régime même, avec beaucoup d'attention portée aux aménagements de Louis XV et Louis XVI. Et c'est une dynamique qui est lancée à la fin du XIXe siècle et sur laquelle on vit encore aujourd'hui, qui vise à restituer, à reconstituer, à mettre l'accent sur ce Versailles d'Ancien Régime, avec donc une opération de reconstitution d'intérieur, de remeublement aussi, de l'idée de faire revenir les meubles qui avaient été vendus sous la Révolution. Lorsqu'on peut les racheter, on les fait revenir à Versailles et on les réinstalle à l'endroit où ils étaient sous l'Ancien Régime.
Mais je remarque que les souverains dont vous parlez, aucun d'entre eux n'a envisagé de s'installer à Versailles. Louis-Philippe, pas même Louis XVIII.
Alors
même
Louis XVIII, si, mais il y a eu les 100 jours et ça l'a refroidi après. il s'est contenté de Paris. Mais c'est vrai que Versailles fait peur aussi, parce que revenir à Versailles, c'est peut-être renouer de manière trop visible avec l'Ancien Régime, dont le lieu est le symbole. Il y a une certaine prudence, voilà.
Alors l'avenir de Versailles, il est grandiose, vous continuez à restaurer, il y a toujours quelque chose à restaurer.
Toujours des travaux de restauration, oui. Il est grandiose, espérons. Vous parliez du surtourisme, c'est vrai que si on ne canalise pas, alors il faut le canaliser physiquement, intellectuellement aussi, c'est ce à quoi ce livre ambitionne de s'employer. Si on ne le canalise pas, il devient dévastateur, parce que un lieu comme ça mérite d'être compris, analysé, médité.
Alors, pour comprendre, analyser et méditer ce lieu, je ne peux que recommander d'Alexandre Maral Le Versailles qui vient de paraître chez Perrin. 1500 pages pour 45 € seulement. C'est véritablement un ouvrage qu'il faut se procurer. Un grand merci, Alexandre Maral.
Merci, vous savez.
Eh bien, chers amis, merci de votre attention et nous nous retrouvons le mois prochain, le 12 mars à 19h30.
Vous venez d'entendre le Libre Journal des Traditions, créé par Claude Giraud et dirigé par l'abbé Alain Laurence, assisté de Guylaine, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, jeudi 12 février 2026 de 19h30 à 21h et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.